France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, devrions-nous faire plus attention à notre attention ? En 1939, Paul Valéry constatait déjà que ses contemporains vivaient sous le régime perpétuel de la perturbation de leurs intelligences. Il ajoutait que l'exagération de tous les moyens de communication soumettait les esprits à une nervosité généralisée. Fin de citation. On ose imaginer ce qu'il dirait s'il revenait parmi nous. Dans notre monde gorgé d'écrans, rythmé par la musique des clics, il est manifeste que ce qu'il appelait la vie de l'esprit se modifie dans les grandes largeurs. D'abord du fait de notre hyperconnexion qui rend difficile à repérer la ligne de séparation entre notre intériorité et le milieu extérieur qui aspire notre attention. Filant à toute allure sur les réseaux, notre esprit s'excentre du corps et se téléporte dans l'activisme des machines. Ensuite, parce que la vitesse apparente du monde s'accroît, nous soumettant à des cadences inédites. Dans le bain agité où il barbote désormais, notre esprit peut-il encore tenir le choc ? Pourra-t-il continuer de pratiquer à sa guise l'équivalent de ce qu'est l'alpinisme pour le corps, c'est-à-dire s'élever au-dessus des bruits du monde, au-dessus de ce que Simone Weil appelait son tumulte glacé ? Dès lors, faut-il que nous reprenions la main sur notre attention ? Si oui, comment faire ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. D'abord vous, Célia Zolinski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous êtes co-auteur d'un livre intitulé « Pour une nouvelle culture de l'attention » qui est apparu en 2024 aux éditions Odile Jacob. Et puis vous, Apolline Guillot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie, rédactrice en chef de Philonomiste. Et vous êtes auteur d'un livre qui va paraître le 23 janvier 2026, qui s'intitule « Hors de soi, déjouer la tyrannie de l'attention ». Je vous propose de discuter avec chacune d'entre vous pendant 20 minutes, et puis ensuite vous débattrez ensemble pendant les 20 dernières minutes. Et je vais commencer avec vous, Célia Zolinski, en faisant remarquer que votre livre est écrit à 8 mains. 8 mains, ça veut dire 4 auteurs. Pourquoi est-ce qu'il faut croiser les disciplines quand on s'intéresse à la question de l'attention ?
Il est essentiel aujourd'hui de croiser les disciplines quand on s'intéresse aux questions de l'attention, lorsque l'on veut appréhender cette question dans ses multiples facettes, ce qui est l'objectif de l'ouvrage que nous avons coécrit avec Stéphana Broadbent, Mehdi Kamassi et Florian Forestier. Nous avons donc croisé les sciences cognitives, la philosophie, l'anthropologie et le droit, afin d'appréhender l'attention sous ses multiples facettes pour appréhender comment l'attention se construit, quelles sont nos relations avec notre attention, avec l'attention au monde, l'attention aux autres, et ces différents impacts que l'on voit désormais se multiplier du fait de nos interactions de plus en plus incessantes, quotidiennes, nombreuses, parfois trop soutenues avec les machines.
Vous dites que dans l'économie des plateformes numériques, l'attention, enfin notre attention, est devenue une ressource critique. Quel est l'équivalent du pétrole dans l'économie industrielle ? C'est vrai ça ? C'est aussi lourd que ça ?
Il nous a semblé important d'expliquer en quoi l'économie de l'attention, qui est le fondement également de l'économie des médias, par exemple la télévision privée, qui va être financée par une économie de l'attention. On connaît la phrase célèbre « je vends du temps de cerveau disponible ». Ici, on voit que bon nombre de services numériques fondent leur modèle d'affaires sur ce qu'on appelle l'économie de l'attention, à savoir réunir une audience, monétiser cette audience auprès, par exemple, d'annonceurs. Et cela est le cas, par exemple, de certains médias sociaux, incluant des réseaux sociaux, et aujourd'hui de certains systèmes d'intelligence artificielle, comme ce qu'on appelle les IA compagnons.
Mais est-ce que l'attention, dont on parle depuis quelques minutes, a une définition précise ? Qu'est-ce que disent les sciences cognitives ? Que dit la psychologie sur ce qu'on appelle l'attention ? Est-ce que vous êtes d'accord entre disciplines sur la façon de la saisir ?
Il nous a semblé important de confronter en effet ou d'articuler ou de compléter ces différentes définitions Et donc, par exemple, Medica Massi, qui est expert en robotique et en sciences cognitives, a livré dans l'ouvrage la définition de comment l'attention est saisie par les sciences cognitives, en quoi cet attribut cognitif qui nous permet, qui a permis à l'humain de résister finalement à son environnement, de faire attention à son environnement pour éviter certains dangers, rester en éveil, comment cette attention a contribué au développement de l'humain et probablement de l'humanité. Nous avons également apporté le regard de la philosophie, mais là je laisserai l'autre invité peut-être développer plus longuement sur l'approche philosophique. Pour ma part, je suis professeur de droit, donc j'ai étudié en quoi le droit pouvait venir régir ces problématiques, en particulier s'agissant des médias sociaux et aujourd'hui des systèmes d'intelligence artificielle. Et ici, il m'a paru important, non pas tant de saisir l'attention comme un objet ou comme un point particulier, mais de comprendre comment protéger les individus, les sujets, les utilisateurs, nous-mêmes, des réseaux sociaux et des systèmes d'intelligence artificielle, dès lors que l'on vient capter notre attention, maintenir notre engagement. Ce sont les métriques d'engagement qui vont gouverner un certain nombre de ces services. Et donc, c'est plutôt cet aspect-là de l'attention que nous avons travaillé. Et en plus, c'est ajouté l'analyse de Stéphana Broadbent, donc en anthropologie du numérique, qui a pour spécialité, comme expertise, ce qu'on appelle en anglais la joint attention, l'attention jointe, comment l'attention, par exemple, d'un jeune enfant qui vient capter l'attention de son parent, va lui permettre de se développer. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce qu'on peut nommer aujourd'hui la technoférence, lorsque, entre le jeune enfant et le parent, va s'interposer un écran, non pas dans la main de l'enfant, mais dans celle du parent. Et on a pu, dans le cadre de la mission enfant-écran, dont j'étais l'une des expertes, identifier toutes les effets délétères qui peuvent résulter de ces mécanismes de technoférence auprès des très jeunes enfants.
Par exemple,
des retards de développement cognitif, des retards de développement du langage qui sont malheureusement de plus en plus constatés par les spécialistes de la jeune enfance. Et il semble aujourd'hui essentiel, et ça figure d'ailleurs depuis tout récemment dans les carnets de santé, d'alerter les parents, en plus issus d'une génération qui a pu naître, contrairement à la mienne en tout cas, avec
un
téléphone dans sa main, de se rendre compte de l'impact que même si l'on ne confie pas son téléphone à son très jeune enfant pour regarder, y compris un dessin animé adapté, que le fait de interposer et de ne plus permettre à son enfant de capter son attention, d'interposer son écran devant son enfant, peut emporter, au-delà du temps qu'on ne joue pas avec lui, des effets de retard de développement cognitif chez celui-ci.
Mais est-ce qu'on a appris pendant la phase du Covid, Célia Zolinski, des choses sur l'attention, puisque c'est la période où on a utilisé plus qu'avant des systèmes de visioconférence, on a utilisé le numérique davantage. Est-ce qu'on a pu apprendre là des choses nouvelles ?
On a pu observer un certain nombre de ce que certains appelleraient la zoom fatigue, c'est-à-dire le fait d'avoir une fatigue due à un excès d'utilisation que l'on peut aujourd'hui observer des écrans, comme on dit, à savoir les recherches sur Internet, parfois à des fins professionnelles, qui se cumulaient à des réunions incessantes avec un rythme effréné pour assurer le télétravail et le maintien de l'activité professionnelle, à quoi s'ajoutaient encore des apéritifs entre amis pour garder, ou en famille, pour garder ce lien personnel, inter-individuel, qui était si important dans une période d'insécurité. Donc c'est une première observation que l'on a pu réaliser. Une autre observation va être celle d'un usage plus important des réseaux sociaux parmi une plus jeune génération. Et notamment, on a pu, c'est là un de mes sujets d'expertise, voir malheureusement exploser les cas de cyberharcèlement parce qu'il y avait un temps plus important, un lien social coupé, parce qu'il y avait un temps plus important passé sur les réseaux sociaux du fait de l'absence de scolarité en situation réelle ou l'absence de pratiques sportives ou autres pratiques de loisirs. Et l'on a vu ici donc accélérer ce phénomène malheureusement de cyberharcèlement. Donc voilà en tout cas les constats que je peux dont je peux vous faire part.
Mais vous faites aussi remarquer que quand on suit un cours par l'intermédiaire d'un écran, on est moins attentif que quand on est dans une classe avec d'autres étudiants qui suivent le même cours. Et la question est de savoir laquelle de ces deux situations est la plus fatigante. C'est de suivre un cours sur un écran en étant un petit peu distrait, ou est-ce que c'est d'être en classe avec d'autres qui sont en fait collectivement dans la même situation?
Je suis professeure d'université, donc habituée à des grands amphithéâtres ou à des classes plus restreintes. Ce qu'on a pu observer pendant cette période et le témoignage de nos étudiants, je ne pourrais vous faire part que de ceci parce que je ne suis pas sociologue ou anthropologue, le témoignage de nos étudiants a été que le fait de devoir porter son attention sur un écran avec, on le sait aussi, parfois, lorsqu'on allume sa caméra, une posture que l'on contrôle, une posture y compris physique que l'on contrôle, une attention soutenue sans pause, telle que pause habituelle que l'on peut avoir autour là d'un café partagé ou d'un échange de humoristique sur, je ne sais pas, par exemple ce que vient de dénoncer l'enseignant devant son amphithéâtre. Ces ruptures peuvent conduire certainement à régénérer une certaine forme d'attention. En tout cas, le témoignage de nos étudiants a été unanime sur la très grande fatigue de ces cours incessants. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on a développé des pratiques pédagogiques différenciées. Par exemple, des débats y compris dans le chat. Et je dois avouer que cette fatigue ressentie par les étudiants, nous la partagions en particulier en tant qu'enseignant lorsque on devait surtout faire des cours face à bon nombre d'écrans noirs. Et c'est pour cela qu'on en appelle aussi à allumer ses caméras. Il est moins fatigant d'échanger face à des personnes, y compris même si elles ne sont que représentées sur l'écran, que face à des écrans noirs où là il est très difficile de maintenir son attention.
Célia Zolinski, vous m'accorderez qu'il y a au moins deux sortes d'attention. Il y a celle qui est endogène, qui vient de notre intérieur, qui est une sorte de concentration. Et puis celle qui est exogène, qui est provoquée par l'extérieur. Est-ce que la seconde empêche la première? Je vous pose la question parce que penser, finalement, c'est être pensif. Et être pensif, c'est ne pas se laisser distraire.
Alors, deux choses sur ce point. La première, c'est que il me semble en effet qu'il y a besoin de respecter un rythme. Un rythme qui ne doit pas nous être imposé de l'extérieur et donc des moments de réflexivité, des moments de recentrer son attention sur le fait de se ressourcer, le fait d'intégrer une réflexion comme celle que je viens de devoir réaliser devant vous. Et si par des attentions stimulées de l'extérieur ou des mécaniques qui visent à stimuler votre attention de l'extérieur, vous êtes appelé de façon incessante à réagir, comme par exemple ces notifications nombreuses et incessantes que l'on peut avoir sur un réseau social ou sur une messagerie privée, alors ces temps de repos, ces temps d'intégration, ces temps de réflexion ne nous sont plus permis. Et d'ailleurs, cela est désormais documenté, cela peut causer ce qu'on appelle une fatigue de l'attention. Et c'est ainsi que l'on propose désormais un certain nombre de mécaniques de régulation autour justement de ces interfaces développées, de ces fonctionnalités développées par certains médias sociaux, notamment le « il est en train de lire », ces trois petits points de suspension qui s'inscrivent sur une messagerie privée ou sur un système de messages partagés sur un réseau social. Et là, votre attention est suspendue à la réponse que possiblement l'autre est censé vous envoyer. Et donc, c'est ce qu'on appelle finalement une conception possiblement addictive, puisque ça va vous laisser dans l'attente d'une réponse et donc hooké, accroché à votre téléphone.
Est-ce que c'est le fait que notre attention soit ainsi captée qui fait que on observe une diminution de la durée du sommeil? Vous donnez des chiffres spectaculaires, hein. La durée du sommeil d'aujourd'hui en moyenne comparée à celle de 1900, je crois qu'il y a 2 heures de moins.
En effet, on a l'un des principaux effets délétères que l'on peut observer aujourd'hui avec cette captation incessante de notre attention par les médias sociaux en particulier, mais peut-être aussi par les agents conversationnels désormais, va être une réduction du temps de sommeil. Une réduction du temps de sommeil, par exemple, lorsque vous scrollez, vous défilez de façon infinie sur votre fil d'actualité préféré, bien souvent avant de vous endormir, par peur de manquer quelque chose ou par volonté de vous divertir après une grande journée de travail. Dans le cadre d'une étude que l'on a conduite à la demande de l'ANSES sur les risques sanitaires des réseaux sociaux pour les 11-17 ans, qui va paraître dans quelques jours désormais, nous avons identifié que, et c'était le cas également dans la mission Enfant-écran, l'impact sur la réduction du temps de sommeil était important et que cela est déterminant en particulier pour les plus jeunes utilisateurs, puisque le sommeil est essentiel au développement physique et physiologique, en particulier des enfants. Et c'est l'un des impacts les plus délétères que l'on relève aujourd'hui, et c'est pour cela qu'on recommande un certain nombre de choses, y compris de ne pas consulter ces fils d'actualité, de scroller de façon infinie avant de se placer dans les bras de Morphée.
Einstein n'a pas connu les réseaux sociaux, mais il disait « je dors pas beaucoup, mais je dors vite ». Alors, vous dites qu'il faut, c'est en gros la conclusion de votre livre, hein, ce livre collectif, vous dites qu'il faut promouvoir une sorte de culture de l'attention. En quoi est-ce qu'elle consiste et quelles sont les mesures qu'elle exige? Des mesures qui soient, si possible, pas trop coercitives.
Nous en appelons en effet à une nouvelle culture de l'attention, à savoir permettre à chacun de reprendre le contrôle de son attention et puis de concevoir des mécanismes qui permettraient de favoriser cette attention jointe qui nous permet de promouvoir le relationnel à l'autre, ce qui ne nous semble pas être le cas de bon nombre de services numériques. Parmi les recommandations que nous formulons, nous proposons donc notamment, par exemple, de reconnaître à l'utilisateur des médias sociaux, mais ce sera le même cas pour les systèmes d'intelligence artificielle, de bénéficier d'un droit au paramétrage, de pouvoir ainsi mieux définir quels seront les contenus auxquels nous serons exposés, les contenus auxquels nous ne souhaitons pas être exposés, définir également sa sphère de contact. Et on voit que bon nombre de services de médias sociaux aujourd'hui nous le permettent, mais de façon extrêmement complexe. Donc on voudrait faciliter ce droit à mieux maîtriser son attention à titre individuel. À titre collectif, il nous semble important également d'assurer une défense collective de ces droits. Et donc, en tant que dans mes recherches spécialisées dans les sciences juridiques, nous travaillons aujourd'hui à comment favoriser des actions de groupe pour pouvoir réaliser un contre-pouvoir vis-à-vis de certains.
Mais si on peut choisir les sujets pour lesquels on accepte d'être capté, on va choisir des sujets qui nous intéressent. Et donc on risque d'être encore plus addictif puisqu'on n'aura que des choses qui nous plaisent.
En effet, l'objectif, c'est de choisir des choses qui nous intéressent et non pas celles que la plateforme considère être intéressantes dans nos tranches de catégories. De par les données comportementales qu'elle aura collectées par cette navigation sur le service. Néanmoins, en fait, ce que l'on peut observer sur les médias sociaux, c'est que on constate ce qu'on appelle un effet casino. Un effet casino, c'est-à-dire qu'on va nous pousser des contenus qui sont censés nous intéresser, mais en même temps avec une dose de hasard qui va, et c'est scientifiquement prouvé, nous maintenir notre intérêt dans la consultation de ces contenus. Et l'objectif n'est pas tant de nous pousser des contenus suscitant un intérêt, par exemple, que je peux définir sur le plan scientifique la journée ou ludique le soir, mais de trouver les mécaniques qui vont maintenir mon engagement afin, lorsque le service repose sur le modèle de l'économie de l'attention, de profiler l'utilisateur et de favoriser des modèles publicitaires. Ici, on voit bon nombre d'effets toxiques et notamment ce qu'on appelle les effets rabbit hole ou trou de lapin, où ces contenus qui vont être poussés en masse sur un fil d'actualité peuvent être des contenus toxiques d'incitation aux troubles du comportement alimentaire, à l'automutilation ou au suicide pour certaines tranches d'âge en particulier. Et parfois, les jeunes utilisateurs qui veulent sortir de ce trou de lapin dans lequel ils s'enferment vont essayer d'actionner des boutons qui sont proposés, voire moins, de ce type de contenu. Et aujourd'hui, on étudie comment faire en sorte que ce type d'interface soit présente sur les médias sociaux et ensuite soit vraiment suivi des faits tester pour ne pas être qu'une illusion. Là, on a des effets sanitaires déterminants aujourd'hui, puisque malheureusement, on constate un certain nombre de cas d'automutilation, voire de suicide de jeunes. Il y a d'ailleurs des collectifs qui se sont organisés pour intenter des actions en justice, des actions en responsabilité à l'égard en particulier de TikTok.
Un neurologue qui s'appelle Michel Desmurger vient de faire paraître un petit essai qui s'appelle « La lecture en 2050 ». Et il dit qu'il faut, pour enrayer la fabrication de ce qu'il appelle des « crétins digitaux », favoriser, promouvoir la lecture de livres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste ?
Dans le cas de la mission Enfant Écran, nous avons formulé un grand nombre de propositions avec une approche holistique. Et nous avons notamment promu non seulement de mieux protéger les jeunes utilisateurs, de permettre leur mise en autonomie sur les médias sociaux et plus généralement dans le cadre de l'utilisation de services numériques, mais aussi la nécessité de promouvoir des activités tierces. La lecture en est une. La possibilité également de repenser l'espace public pour organiser du loisir collectif en est une autre. En somme, penser également cette ascension jointe que je vous mentionnais et des mécaniques de développement relationnel autres que celles qui s'opèrent aujourd'hui, parfois pour certains malheureusement exclusivement, sur les réseaux sociaux.
Merci Célia Zonicki, vous avez parlé 20 minutes. Je vais m'adresser maintenant à notre seconde invitée, Apolline Guillot. Je rappelle que vous êtes philosophe et vous vous êtes demandé si pour retrouver le monde, il ne fallait pas commencer par se déconcentrer. Et vous vous êtes livrée à des expériences étranges à la suite de ce que vous appelez une panne de présence. Comment est-ce que la présence peut tomber en panne ?
Bah, c'est un petit peu, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous pu, tous et toutes pu expérimenter. C'est ces moments où on a l'impression d'être tout le temps ailleurs et en même temps nulle part. Et on a l'impression d'être absent à la fois à soi-même, au monde qui nous entoure. Et je parle pas que des moments où on va scroller sur les réseaux sociaux, mais des moments de, où tout semble à peu près aplati et à égalité. On sait plus vraiment où on est. Moi, j'aime bien cette expression que le monde pèle, un peu comme quand la peau pèle. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est fonctionnel, qu'on s'inscrit dans un quotidien qui est bien rythmé, qu'on a des interactions, on appelle ses parents, on va faire ses courses, etc. Mais en arrière-fond, il y a une petite musique qui peut durer deux minutes, comme elle peut durer une soirée, où on a l'impression de se dire « mais qu'est-ce que je fais ?» Où est-ce que je suis ? Est-ce que je suis pas en train de me perdre, de m'éparpiller ? C'est pour ça que la question de l'attention, à mon avis, elle est liée à ça aussi, c'est de se dire, bah, est-ce que j'ai pas perdu le contrôle de ma propre vie ? Est-ce que je suis pas juste un satellite d'une existence dont j'ai plus vraiment les coordonnées ?
Est-ce que je suis pas trop déconcentrée ? C'est ça que vous voulez dire ?
Bah, justement, c'est que souvent, on pose la question en termes de concentration, de déconcentration, puisque le narratif autour de beaucoup de nos souffrances contemporaines, c'est souvent la dispersion, la perte de soi dans les écrans, dans le numérique, le rythme effréné du quotidien, et du coup, cette souffrance un peu existentielle, ce vertige-là, très vite, on est tenté de le ramener à une question de concentration.
Il faut se reconcentrer.
Voilà, exactement. Et c'est de ce point de départ-là, moi, que je suis partie en me disant... Qu'est-ce qui se passe quand j'essaye d'observer concrètement ce qu'il advient de moi si je ne veux pas me reconcentrer, si je décide volontairement de pas recourir notamment au fait de laisser mon téléphone dans une caisse, de m'isoler complètement, et qu'est-ce qui se produit quand je laisse un peu mon esprit à l'état sauvage ?
Donc vous avez réalisé une expérience qui vous a fait écrire ce livre, Hors de soi, déjouer la tyrannie de l'attention. En quoi a-t-elle consisté ?
Alors c'était assez, ça s'est passé en deux temps. Déjà j'ai observé que ces pannes de présence, ce décollement par rapport à la réalité, ils s'opéraient de plus en plus souvent. En parlant autour de moi, je me suis rendu compte que c'est une expérience que j'étais pas la seule à avoir expérimentée, mais que beaucoup de gens passaient par exemple par l'IA générative, par exemple des conseils de ChatGPT ou bien des comptes de développement personnel pour essayer de se réancrer, etc. Et moi j'ai décidé à un moment de ne pas recourir à ces solutions-là. Et donc de laisser ce décollement s'opérer. À ce moment-là, mon père m'a proposé d'aller à la campagne pendant l'été parce que lui s'absentait. Dans le Cher. Et je me suis dit que c'était l'endroit parfait puisque j'allais pouvoir à la fois m'observer un peu comme Huysmans dans Un rebours, c'est-à-dire être dans une forme de confinement choisi, un peu artificiel, puisque bien sûr.
Mais avec un ordinateur, un téléphone.
Ah bien sûr, ah là j'ai poncé Internet pendant tout l'été. Hein. Enfin, c'était pas du tout une. J'ai absolument
mais l'idée,
pas.
L'idée c'était de d'échapper au contact.
Et c'était plus d'échapper effectivement à la tentation de me discipliner, qui est très forte, je trouve, quand on habite en ville, qu'on a des relations sociales régulières, qu'on a beaucoup d'impératifs, je trouve, à garder la face. Ce qui n'était pas le cas du coup pendant ma retraite.
Apolline Guillot, pendant cette retraite, vous êtes passée par plusieurs phases. Vous avez rédigé un journal, donc on suit l'évolution de votre psyché, si j'ose dire. Vous parlez aussi de la lecture.
Beaucoup, ouais.
Qu'est-ce que c'est que la lecture? Est-ce qu'elle fait du bien dans ces situations-là ou est-ce qu'au contraire, elle nous saucissonne un peu?
Bah, je pense que faire de la lecture une thérapie, c'est très dangereux. Parce que ça ôte tout le plaisir, je trouve, tout le vice qu'il peut y avoir à la lecture, qui est quand même, à l'origine, au 19e siècle, quand on lit des romans, c'est un vice, quoi. C'est une déviance, c'est qu'on va s'échapper de la réalité, on va venir tricher un petit peu, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de le rayon romance et fantasy chez les jeunes, c'est des pavés de 700 pages. Donc pendant 700 pages, on est immergé. Alors peut-être que c'est des crétins digitaux, mais c'est quand même des personnes qui échappent à un moment au monde en fabriquant un autre et deviennent en fait insensibles et distraits au monde réel. Tant qu'on est happé dans la lecture. Et
est-ce que c'est pas ça qui apprend l'empathie, justement?
Ça prend peut-être beaucoup, un peu l'égoïsme aussi. Mais l'égoïsme dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de trouver aussi en soi les ressources de créer un imaginaire, de se rendre absent au monde réel, tangible, physique, pour se rendre présent à un monde qui est pas vraiment qui est pas de la même nature, mais qui a aussi toute sa part de réalité, sa part d'impact sur notre psyché. Ouais.
Vous qualifiez votre téléphone portable de tétine cognitive.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Une tétine.
Oui, on voit bien l'image.
Mais... moi, je pense que c'est vraiment. On parle de dispersion, effectivement des troubles avant de s'endormir, etc. Mais vous avez vu un enfant qui pleure, on lui met une tétine, il arrête tout de suite. De la même manière, les gens qui ont des crises d'angoisse, qui sont mal à l'aise socialement, dont la réalité est difficile, le réseau social, l'écran, moi, je pense, sert aussi de.
Mais tétine cognitive, c'est péjoratif ou pas?
Aussi péjoratif que peut être une tétine pour un enfant, c'est-à-dire que si ça devient une dépendance, un réflexe qui nous coupe des autres façons qu'on a d'arrêter d'angoisser, d'arrêter de tomber dans des moments de déprime ou de stress. Oui, ça peut être positif si c'est pas la seule solution. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup. C'est la polysémie de l'attention et les différentes manières qu'on peut avoir de considérer l'attention. C'est pas juste une ressource qu'il faudrait optimiser, canaliser, discipliner. C'est aussi un rapport au monde et à soi-même. Et effectivement, avoir des moments où on a cette tétine cognitive et on est capable à un moment d'en sortir. Parce qu'il y a des choses plus intéressantes qui se passent et qu'on se laisse distraire ailleurs, c'est très bien aussi.
Mais est-ce qu'on, je reviens à la lecture, est-ce qu'on peut lire et en même temps penser à soi?
Ou
est-ce que lire,
ouais,
c'est se débarrasser de son moi finalement?
Oui, c'est être absent à soi-même et indisponible aux autres. Donc c'est pour ça que c'est une empathie qui est basée principalement quand même sur de l'imaginaire. Mais moi, en tant que lectrice, par exemple, je sais que j'ai vécu dans les stalags quand j'ai lu Vie et Destin, j'ai vécu avec des animaux fantastiques quand j'ai lu Harry Potter. Enfin, je sais que il y a des parties de ma vie qui m'appartiennent pas parce que je les ai vécues dans les livres. Et ça, effectivement, on peut parler d'empathie dans le sens où je suis un composite chimérique de tout ce que j'ai absorbé. Et tant mieux, quoi. Je suis pas juste cet individu qui viendrait sélectionner. Je suis aussi les dizaines
de... Le lion est fait de moutons assimilés, disait Paul Valéry.
Exactement. Mais je suis aussi, et je précise, je suis aussi tous les films que j'ai regardés, tous les reels Instagram que j'ai regardés depuis le début de l'année, qui m'ont fait rire parfois m'ont inquiété. Je suis les articles de journaux que je lis. Je suis aussi tout ça. Je suis pas juste Anna Karénine et Marcel Proust, quoi.
Mais si on met chacun dans sa bulle, est-ce qu'on n'est pas en train de déserter l'idée d'un monde commun?
C'est ça qui est assez, je trouve assez inquiétant quand on parle de l'attention uniquement d'un point de vue politique ou neuroscientifique, on oublie, je pense, que la question de l'attention, c'est toujours une question de qu'est-ce que je déserte et vers quoi je vais. Parce qu'en fait, quand on regarde ce que c'est que l'attention, la distraction et l'attention, c'est les deux faces en fait d'une même pièce. C'est-à-dire à quoi est-ce que je vais accepter d'être distrait et à quoi je vais accepter de me consacrer. Et c'est intéressant de penser que l'inquiétude autour de la distraction, elle est née au même moment que l'inquiétude envers la monomanie, les monomaniaques. On étudiait la distraction.
Vous avez plusieurs pages sur la monomanie.
Exactement, et je trouve ça très intéressant qu'en fait, les gens qui sont sur leur téléphone, moi la première, on développe aussi des monomanies, des obsessions. Quand on a des troubles alimentaires, on a des monomanies. C'est pas, on n'est pas simplement malade ou bien, on est vraiment dans une allocation des ressources attentionnelles qui est dangereuse parce qu'elle est monolithique, elle est homogène. Et l'hétérogénéité, l'éparpillement en ça a beaucoup de vertus, je pense.
Quand on vous parle d'économie de l'attention, ça provoque quelle réaction chez vous?
La méfiance.
J'ai l'impression.
Un petit peu. Moi, c'est surtout le terme de économie de l'attention. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que quand on l'utilise entre guillemets, j'y vois pas de problème. Le problème, c'est que souvent, on voit pas les guillemets quand on parle à l'oral, et donc on a tendance à penser que l'attention serait réellement cette ressource rare, cette chose qu'il faudrait optimiser ou bien dont il faudrait éviter la dilution. On a un réflexe un peu territorialiste, extractiviste, qui vient très très facilement. Et c'est normal parce qu'en fait, vu que notre société est traversée par des notions économiques, en fait, il est très facile de représenter l'attention comme une tirelire ou comme une ressource, un petit pécule qu'on pourrait allouer, à ce qui nous intéresse. Distribuer en bon père de famille, voilà, sans gaspiller, surtout attention à pas gaspiller. Donc c'est, en fait, je trouve que la contamination de la question de l'attention par la question économique et par la question de l'exploitation des ressources, par exemple, elle est assez intéressante et il faut peut-être essayer d'offrir un récit un peu différent. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi.
Mon ami Olivier Garcia a trouvé un anagramme de l'économie de l'attention. Ça donne le néo-dictat émotionnel.
Ouais.
Ça vous parle? Le néo-dictat émotionnel. Le mot dictat doit vous plaire.
Oui, j'aime beaucoup le mot dictat. Et effectivement, ouais, je pense qu'il y a quelque chose de disciplinaire à partir du moment où on parle d'attention, on parle de valeur. À partir du moment où on parle de valeur, on parle de normes qui est parfois imaginaire, parfois réelle, parfois opérante, parfois non. Et oublier toute la dimension morale et spirituelle de l'attention, c'est un peu grave parce que ça en fait un champ d'action uniquement coercitif, uniquement disciplinaire qui peut amener à peut-être mal comprendre la question.
Vous avez une page sur Darwin, on se demande ce qu'il vient faire là.
Ouais.
En fait, vous dites que Darwin a eu un regret, je le cite. « Mon esprit, dit-il, semble être devenu une sorte de machine qui extrait des lois générales d'une vaste collection de faits. Si je devais revivre ma vie, je me fixerais comme règle de lire de la poésie et d'écouter de la musique au moins une fois par semaine, car peut-être les parties de mon cerveau, aujourd'hui atrophiées, auraient-elles été ainsi maintenues en vie par l'usage. »
C'est un texte assez touchant, en fait, parce que c'est dans ses notes autobiographiques qui ont été publiées après sa mort. Et en fait, avant de dire ça, il raconte sa jeunesse. Il dit qu'il adorait Shakespeare, qu'il adorait la poésie, qu'il avait l'impression que lui aussi allait faire de l'art. Et c'est William James qui commente ce texte-là et qui dit « C'est vrai que quand on est jeune, on a envie de créer, on a l'impression que le monde est une page blanche, qu'on va s'exprimer, que on est très sensible à l'art, on a une sensibilité qui est plus grande que quand on grandit, parce que notre spécialisation, en fait, même professionnelle, nous rend aveugle à tout un tas de stimuli, tout un tas de choses. Et je trouve qu'il y a quelque chose de touchant d'avoir un cerveau aussi génial que Darwin, hein, qui a vraiment marqué complètement toute notre civilisation, qui avoue qu'il aurait bien aimé, s'il avait pu, il aurait bien aimé être un peu moins monomaniaque, justement, et pas voir la théorie de l'évolution partout, quoi. Et ce texte, il est assez, je trouve, quand je l'ai découvert, j'ai trouvé touchant parce qu'il parlera à tout le monde. Et il y a un lien, je pense, très fort entre la spécialisation impliqué par le travail contemporain et notre rapport à l'attention. C'est que du coup, on va avoir un monde du travail dans lequel on a des tâches qui sont de plus en plus standardisées, de plus en plus processées, qui demandent de moins en moins d'investissement émotionnel, personnel et qui ont de moins en moins de sens. Donc on parcellise les tâches, on les rend plus monotones. Par contre, on va condamner la distraction, on va condamner la dispersion de l'attention. Donc c'est un peu schizophrène, c'est qu'à la fois on crée des vies professionnelles qui sont parfois barbantes, qui n'ont pas de sens, qui vont nulle part.
Et vous proposez de les marier l'une à l'autre?
Moi je propose justement qu'elles dansent ensemble, ou en tout cas de pas ce que je récuse, c'est plus la culpabilisation et l'espèce de recherche d'un idéal de concentration absolue qui serait uniquement créatif, uniquement je serais complètement acteur de ma propre vie psychique, alors que c'est pas le cas. Il y a beaucoup de facteurs que je contrôle pas déjà. Et il y a une vertu aussi à un moment faire des trucs un peu en mode automatique sans y réfléchir. Moi, je fais plein de, enfin, le multitasking, le fait de faire beaucoup de choses en même temps, il y a quelque chose qui peut être effectivement fatigant et dangereux si ça nous rend fou, mais il y a quand même aussi un plaisir à ça, c'est-à-dire une intensification.
Sauf que ça peut produire du burn-out.
Bien sûr.
Une sorte d'entropie chronodispersive qui fait qu'on superpose plein de présents multiples.
Bien sûr,
et on craque. Ouais.
Parce qu'on valorise pas aussi la dispersion. Il y a des sociologues aujourd'hui du travail qui réfléchissent à le travail cognitif que ça demande de gérer la multiplication des tâches simultanées. En fait, c'est quelque chose qui devrait être reconnu et pas, on devrait pas dire, ah, c'est pas bien, tu te concentres pas, faut que tu sois dans le flow. En fait, le monde du travail actuel nous empêche d'être dans le flow. Donc, il faut arrêter de dire aux gens, mais je comprends pas pourquoi t'arrives pas à te bloquer des créneaux pour réfléchir à fond. Mais en fait, non, c'est juste que
Vous l'avez fait, vous avez eu cette expérience.
Bah, j'ai eu la chance
d'isolement à Pauline Dhiaux, et est-ce que la conclusion que vous en tirez est que l'isolement favorise la concentration ou pas?
C'était vraiment sincèrement non.
Vous l'expliquiez.
Moi, je me suis. C'était. J'aime beaucoup. Je crois que c'est Sartre qui parle d'hémorragie pour parler du sujet.
Vous dites que le jeu est une flaque.
Ouais, exactement. C'est une flaque. Chose. C'est une mare. C'est un étang. C'est quelque chose qui est au milieu duquel peuvent fermenter des idées qui parfois donnent une phrase ou un fragment de pensée. Mais c'est aussi beaucoup de végétation, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un auteur, John Cooper Police, qui parle de paléontologie affective, cette idée qu'en nous vont cohabiter une strate de végétation, quand on végète, une strate animale un peu archaïque, primitive, et puis de temps en temps, on va avoir effectivement la réflexivité, de l'imaginaire, du dialogue, et d'ailleurs j'ai parlé avec des gens, j'étais quand même, il y a des gens qui sont venus me rendre visite, donc j'étais pas toute seule, mais je me suis épuisée moi-même, quoi. J'épuisais les algorithmes parce que je regardais tellement tout ce qu'il y a sur Internet qu'au bout d'un moment, il fallait que je me fasse des pauses, parce que juste, il se passait plus rien sur Internet, quoi. Et je me voyais en train d'essayer de me déserter moi-même, et je me disais, mais c'est fou parce que je devrais là me retrouver, me prendre en main, j'ai la chance, pourquoi? En plus je suis une femme, donc alors quand on dit qu'on s'ennuie quand on est seule, quand on est une femme, c'est tout de suite mais voilà, qui suis-je? Je suis complètement dépendante du regard de l'autre, etc. Il faut apprendre à être solo, alors que pas du tout. Moi, j'ai vraiment vécu ça comme une mise en échec, et j'étais au fond aussi contente aussi de reprendre ma vie.
Donc vous ne recommencerez pas?
Je recommencerai peut-être, parce que maintenant j'ai aussi appris une nouvelle, ce que j'appelle une grammaire de la dispersion, une grammaire des plaisirs liés à cet isolement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que je rechercherais, et qui, surtout moi, j'ai évité d'en faire un idéal ou une norme pure et à laquelle il faudrait revenir à tout prix en éliminant toutes les distractions de mon quotidien. J'ai plus vu ça comme un lieu qui existe, et une tranquillité de me dire que le monde est là, que les grenouilles, les mares, le soleil, le monde existe en dehors de nous. Et il faut apprendre à aimer le monde sans inceste, comme dit Sartre, c'est-à-dire ne pas aimer que les productions faites par l'homme. On vit dans un monde qui est saturé de signes, saturé de mots, de textes, que ça soit du code, que ça soit des hypertextes, des liens hypertextes, que ça soit des pages web ou des livres.
Images.
Des images, et en fait retrouver, et je pense que c'est ça qui manque beaucoup dans le discours sur l'attention, c'est quels sont les plaisirs sensuels, charnels, matériels, non humains, extra-humains, dans lesquels vont s'insérer nos dialogues avec le monde, qu'on parle pas juste entre nous, quoi.
C'est quoi la bonne attention ?
Je pense que le terme de bonne, au sens moral du terme, je me méfie toujours un petit peu. Je dirais que l'attention vivante, je préfère parler d'attention vivante, c'est une attention qui est aussi sans cesse entre la part de chaos et d'éparpillement qui constitue notre vie psychique. Et ça, la phénoménologie l'a vu, la psychologie l'a vu. Il y a effectivement une hétérogénéité de nos contenus de conscience en permanence. Donc on est à la fois happé et en même temps parfois on est acteur. Donc une tension entre ce chaos-là et par contre aussi une capacité de synthétiser ou d'avoir un horizon de synthèse, ce qui est pas pareil. C'est-à-dire une synthèse qui est toujours en action. On n'est jamais un individu, on est toujours en train de s'individuer, de se recomposer à partir de toutes ces bribes. Et c'est un peu ce que fait Montaigne dans les essais, de dire l'écriture en fait est le récit de soi-même et l'exercice qu'on fait de notre propre dispersion. Le fait même de l'assumer en première personne, c'est déjà dépasser le chaos, c'est déjà lui donner un sens subjectif.
Ça me fait penser à une phrase de Paul Valéry, enfin plusieurs petites phrases. Dans Mélange, il dit, un peu ce que vous dites là, « Selon l'heure, naïf, absurde, aimable, étrange, esclave d'une mouche ou maître d'une loi, Un esprit n'est que ce mélange duquel, à chaque instant, se démêle le moi.
Ah, c'est très beau, l'esclave d'une mouche.
Mais vous avez épuisé vos 20 minutes, là.
Ouais.
Donc vous allez débattre maintenant avec Celia Zolinski. Comment est-ce que vous réagissez? Parce que je crois que vous n'avez pas lu le livre, il est pas encore sorti, il sortira le 23 janvier 2026. Comment est-ce que vous réagissez à ce qu'a dit Apolline Guillot?
J'ai hâte de lire l'ouvrage, il m'a l'air tout à fait fondamental et l'expérience vécue, j'ai eu le plaisir de la partager mais en de trop brefs instants et ce besoin de dispersion, comme Apolline le nomme je crois, me semble être fondamental, en tout cas de mon expérience personnelle, pour se reconstituer et ces moments justement où on perd pied, on a besoin d'un temps de latence pour juste, en tout cas c'est mon sentiment, me reconstituer, me ressourcer, comme on pourrait le dire plus simplement. J'essaye de l'éprouver dès que je le peux, dès que la frénésie de notre vie nous le permet. C'est peut-être cela que je regrette justement sur, et c'est désolé de revenir à ces éléments qui me préoccupent dans ma profession, justement tous ces appels incessants à agir, tout le design de ces services numériques qui nous entourent, qui vont sans cesse nous happer, nous maintenir dans une captation de notre temps, de notre alors ce qu'on va nommer largement attention, pour ne pas nous permettre de prendre le temps, non pas forcément de faire autre chose, souvent de ne rien faire et de laisser notre esprit.
Mais est-ce qu'on a vraiment envie de ne rien faire? Est-ce que faire le vide, qui est une recommandation qu'on entend souvent. D'abord, faire le vide, c'est une sorte de contradiction dans les termes, parce que faire, c'est un verbe d'action. Puis la chose qu'on doit faire, c'est rien.
Il n'y a jamais de vide, quoi. Ouais. Mais moi, enfin, un truc qui m'interroge quand
Apolline
même
Guillot.
Beaucoup, pardon, sur la ce qu'on vient de dire là sur la nécessité de prendre du temps, etc. C'est le déplacement en fait d'une question politique et sociale, de dire vers quel monde est-ce qu'on veut aller, quelle est l'alternative en fait au monde numérique. Et c'est ça que je trouve qu'on se demande pas assez. C'est un jeune aujourd'hui qui passe son temps sur les écrans, il y a une forme de discours ambiant sur l'insécurité dans les rues, sur le danger qu'il peut y avoir à se réunir dehors. Les villes sont désertées de leurs bandes de jeunes. Il y a plus l'équivalent en fait de traîner sur internet. Enfin, moi je vois les gens qui traînent sur internet, ils sont pas tous malheureux, parfois ils rigolent, ils partagent. Moi, si je réponds à mes notifications, c'est que j'ai envie de parler aux gens. Donc c'est aussi qu'il y a un besoin de lien humain qui passe de moins en moins par des lieux de sociabilité pour beaucoup de gens dans pas mal de
villes. Vous voulez dire qu'on traîne sur internet comme on traînait dans la rue?
Bah peut-être aussi qu'il y a de ça, et ça a pas quelque chose, c'est quelque chose de qui est pas mauvais en soi en fait, de juste zoner sur internet comme avant on zonait dans la rue, sauf que il y a 50 personnes qui vont dire pourquoi il y a des jeunes qui zonent, pourquoi, mince. En fait, vouloir contrôler le temps que passe une jeunesse oisive, c'est quelque chose qui existe depuis le Moyen-Âge, quoi. Tout le monde se demande, mais pourquoi, que font les jeunes? Ils travaillent pas, qu'est-ce qu'ils font? C'est un espace quand même, on n'est plus enfant et on n'est pas encore inséré dans la société, qui est extrêmement subversif. C'est qui ces gens, quoi? Et d'ailleurs, je finis, mais je trouve que c'est intéressant de voir que les premiers penseurs, donc qui ont réfléchi, les premiers philosophes, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi avant, mais les premiers philosophes au 19e siècle qui formulent vraiment une éthique de l'attention, comme Thoreau qui se retire à Walden, etc. Au même moment, à quelques kilomètres de là, c'est les premiers centres pénitentiaires pour jeunes garçons, pour faire exactement la même chose que le philosophe quelques kilomètres plus loin, c'est-à-dire travailler de ses mains, se coucher tôt, pas quand même s'amuser trop fort parce que ça risquerait de nous rendre fous. Puis faut que l'endroit soit pas trop beau aussi, parce qu'il dit Thoreau, si on est dans un endroit trop sublime, ça nous donne des idées un peu la folie des grandeurs. Donc il faut un endroit un peu moche où on se concentre, on travaille de nos mains. Et cette irruption du pénitencier pour jeunes et des éthiques de l'attention, moi elle m'a beaucoup interrogée quand j'ai réalisé que ça allait ensemble et que les traités de l'attention qui traitent par exemple de comment garder des esclaves vigilants, ça c'est des traités qui sont écrits, donc comment faire en sorte qu'ils se concentrent, c'est des questions qui sont traversées en fait d'une vision disciplinaire aussi de l'être humain, je trouve.
Mais vous-même vous dites que nous souffrons de ce que vous appelez une malnutrition sensorielle.
Ouais, Bah c'est ça, c'est que c'est la on est coupé de nos cinq sens. C'est ça, je pense que on est, enfin tous les gens qui travaillent sur les écrans le disent, que c'est l'auditif et le visuel qui sont prédominants, et on a un appauvrissement sensoriel de toutes les autres stimulations. Enfin ça c'est quelque chose qui est valable aujourd'hui et qui est aussi dans un monde très urbain, très éloigné aussi de tout un tas de signes. Le philosophe David Abraham parle d'un monde dans lequel il n'y a plus que du signifiant humain. On est incapable de reconnaître des bruits d'oiseaux, de reconnaître des plantes. On n'a plus vraiment notre place dans le monde dans lequel on a quand même été câblé pour interagir avec du non-humain. Et aujourd'hui, on n'a plus affaire qu'à ça. Donc c'est une espèce de cannibalisme.
Il y a des machines aussi.
Oui, mais justement.
De plus en plus de machines.
Mais les machines,
part,
elles sont nourries avec quoi? Elles sont nourries avec nos trucs. Donc c'est comme si on remangeait, désolé, mais notre. Enfin voilà, on remange
on a compris.
Ce qu'on a produit encore et encore dans un cannibalisme. Et le terme d'inceste utilisé par Sartre est très fort, je trouve, parce que on est une société, une économie scripturaire qui écrit, qui produit du texte et qui remange son propre texte et qui commande son propre texte.
Bah, surtout l'IA,
à l'infini.
Qui produit des textes à partir de
texte. Mais les entreprises aussi, vous faites un reporting, vous faites des comptes rendus de réunion à l'infini. Vous faites des choses qui sont en fait du texte qui n'est pas fait pour être lu, mais qui est juste fait pour être archivé. Et ça, c'est vraiment un problème aussi, je pense.
Célia Zolinski.
Deux remarques peut-être à partir du propos d'Apolline. La première remarque, et c'est ce qu'on a essayé de soutenir dans l'ouvrage, c'est que tous ces espaces numériques, ils pourraient être bâtis sur des modèles autres que ceux qui peuvent conduire à nous enfermer vers des tâches, de l'automatisme, de l'ultra-personnalisation, d'une fermeture au rapport à l'autre, peut-être que le rapport au monde, c'est une autre question encore, quoique. Et donc, on pourrait aussi promouvoir, et c'est ce qu'on essaye de faire dans l'ouvrage, d'autres mécanismes, une nouvelle culture de l'attention, et notamment de dessiner des espaces numériques qui nous inviteraient à mieux nous tourner vers l'autre et à mieux collaborer. Et à retrouver finalement les fondamentaux de nos relations interpersonnelles et peut-être même de notre espace démocratique. Donc ça, c'est le premier point. Et le second, c'est une préoccupation qui me semble assez majeure aujourd'hui que l'on doit avoir avec les intelligences artificielles conversationnelles et en particulier lorsqu'il s'agit de compagnons virtuels, puisque là, on est finalement face à son propre miroir. Ces systèmes sont paramétrés aujourd'hui sur des mécanismes d'empathie, de l'empathie synthétique. Il ne s'agit pas d'empathie ressentie par la machine, il est vrai, mais qu'on est finalement face à des mécanismes qui vont nous accompagner dans notre sentiment de joie parfois, dans notre sentiment de détresse le plus souvent. Et c'est face à sa propre image que l'on va entretenir et que l'on va accélérer que la machine peut nous conduire dans des conversations, et on l'a vu avec malheureusement le suicide de quelques adolescents récemment, vers des comportements jusqu'à commettre l'irréparable. Donc il est important aujourd'hui de bien appréhender finalement ce nouveau relationnel avec certains modèles, je dis pas tous, mais certains modèles qui peuvent être aujourd'hui mis sur le marché, qui vont accélérer ces mécanismes d'enfermement de soi-même avec soi-même et avec ces situations de troubles. Et c'est cela contre lequel on essaye de lutter aujourd'hui, y compris sur le plan juridique.
Mais la relation avec...
Apolline Guillot.
La relation avec le non-humain, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce que moi, ce que j'ai l'impression qu'on a une société très sécularisée qui a oublié que pendant très longtemps, on était allé chercher des réponses, on était allé questionner ce qui nous apparaissait comme du non-humain. Alors je sais que l'IA fonctionne à partir de contenu humain, on l'a dit juste avant, mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte il peut y avoir de la valeur à objectifier, par exemple, un mal-être ou une question sentimentale. C'est pas nos sociétés occidentales se sont beaucoup construites contre l'idée que qu'il y aurait des relations authentiques et des relations moins authentiques, que une relation authentique ça serait une relation réciproque avec une intériorité à peu près symétrique, là où par exemple dans les sociétés asiatiques, au Japon par exemple, c'est beaucoup moins un problème parce que c'est des sociétés animistes où du coup on a conscience qu'il est possible d'avoir une relation affective avec un objet sans être complètement aliéné. Après il y a d'autres problèmes politiques et sociaux là-bas qui se pose effectivement, mais je pense que ce qui est important de retenir peut-être, c'est de se dire que il peut y avoir des relations numériques très riches si autour, il y a des systèmes de soins qui fonctionnent, s'il y a des psychiatres, s'il y a des parents qui sont là, qui sont avertis des risques. Et je pense que c'est effectivement agir sur l'architecture de l'outil, mais aussi agir sur la société autour en même temps, quoi.
Il est indispensable, en effet, d'avoir une approche holistique et de pas éviter toute tentative de technosolutionnisme, de ne se focaliser que sur la conception de ces services, sur leur modèle, sur la relation humain-machine. On l'a vu tout à l'heure dans les exemples que l'on citait, c'est par une approche holistique, y compris les problématiques de santé mentale, l'accompagnement des jeunes, l'accompagnement de ces espaces de loisirs, d'interrelations, de pouvoir encourager nos jeunes à aller sortir, retraîner dans la rue, rejouer des matchs de football improvisés, tout ça sans craindre finalement des violences extérieures, violences qui d'ailleurs sont tout aussi importantes sur les espaces numériques et notamment sur les réseaux sociaux. On voit malheureusement des contacts de plus en plus importants de pédocriminels. Donc en réalité, c'est même se fourvoyer quand on est parent d'imaginer mettre en sécurité son enfant en le laissant derrière son portable, là pour ne pas entendre son enfant, son jeune enfant crier, ici pour pas qu'ils ne se fassent agresser dans la rue, puisque finalement les dangers sont tout aussi réels et c'est finalement une illusion de sécurité que l'on pourrait avoir et dont on prend de plus en plus conscience. Mais ce dont il est certain, c'est que finalement reprendre contact avec l'ensemble de son environnement, c'est peut-être un impératif essentiel aujourd'hui.
Et enfin, moi, en discutant avec des gens sur leur usage de ChatGPT, par exemple, je me rendais compte que l'interface de l'outil est très sobre. Beaucoup plus que si on cherche sur Internet, par exemple, ou sur Reddit, où il y a énormément de petits tiroirs, de petits... En fait, Internet est un peu une jungle quand on cherche un truc sur un navigateur. Très vite, on va tomber sur des trucs très catastrophistes, on va avoir de la violence, on va avoir des mini-vidéos qui se lancent toutes seules, etc. Là où je trouve que là où les chatbots sont très bien faits, c'est qu'ils miment une forme de sobriété, d'unification, de simplicité, et je trouve que ça répond à un besoin qui a été créé par le numérique, c'est-à-dire l'espèce de profusion d'informations, d'hyper choix, de tétanie parfois, parce qu'on on check juste une petite blessure sur la main, on se retrouve à penser qu'on a un cancer, alors que ChatGPT va vous dire non, vous avez sans doute pas un cancer, etc. Il va savoir en fait que c'est très peu probable. Et je pense que c'est terrible parce que c'est un outil qui est redoutablement bien fait et il est fait pour nous attirer parce que les excès des écrans font qu'on est surstimulé, quoi.
Est-ce qu'on observe un décrochage, c'est-à-dire comme il y a trop d'informations, on est submergé et certains quittent le numérique pour retrouver une forme de vie plus tranquille. Je dis ça parce qu'il y a une petite nouvelle de Stefan Zweig qu'il a écrite en 1941 qui s'appelle Les pêcheurs du bord de Seine. Il raconte que quand il était adolescent, il a lu un livre racontant l'exécution de Louis XVI, place de la Concorde, en 1793. Et on raconte dans ce livre que des pêcheurs, à quelques centaines de mètres de là, quand la clameur de la foule annonce que la tête du roi est tombée, continuent à regarder le bouchon de liège de leur ligne. Et il dit, quand j'ai lu ça, j'y ai pas cru. Parce que quand l'histoire se déroule à portée de regard, eh ben on regarde. Et il dit, en 1941, alors que l'Europe a sombré sous la barbarie, je comprends les pêcheurs du bord de Seine. On a une vie à mener et on peut pas tout le temps s'intéresser à ce qui se passe dans le monde.
Alors, je ne suis pas ni sociologue, ni anthropologue du numérique, ni même philosophe. Donc, ce que je pourrais observer ici, c'est en effet une submersion informationnelle et en particulier une volonté de certains de nous placer dans une situation de confusion, nous envahissant notamment de contenus synthétiques affichés d'ailleurs comme faux, si on veut assimiler ici le faux et le synthétique, donc une confusion, un trou dans lequel on essaye de nous placer, et puis justement peut-être certains qui viennent se réfugier dans ces espaces numériques dessinés pour discuter avec son propre miroir, avec soi, des chats GPT, Replica ou autres agents conversationnels, où là, finalement, ne viendra pas... Certains vont l'utiliser comme un moteur de recherche, ChatGPT, c'est d'ailleurs un usage de plus en plus courant, mais d'autres vont vouloir se réfugier avec ce compagnon virtuel, avec des effets, par rapport à ce qu'évoquait Apolline précédemment, des effets d'anthropomorphisation qui vont être très forts. Donc oui, c'est d'une simplicité étrange, mais c'est aussi finalement mimiquer, imiter, prolonger, approcher la conversation humaine au risque de créer ce qu'on appelle désormais l'effet Elisa. Donc peut-être que c'est un autre relationnel, cette fois-ci, oui, de soi à soi, avec un soi de la machine, est différent de celui que l'on vient rechercher sur les réseaux sociaux avec cette profusion d'informations de toutes parts.
C'est ce qui est intéressant justement avec l'effet Elisa, c'est-à-dire le fait d'attribuer une intériorité à une machine, même quand elle a une faculté de réponse assez limitée, c'est que on peut prendre l'hypothèse effectivement qu'on se fait duper, c'est possible, mais il y a aussi peut-être une forme de jeu là-dedans, au sens où il y a un plaisir contrefactuel à contrefaire la relation, à se plaire, à faire comme si on n'était pas tout seul. Et enfin, je pense que c'est quand on voit des enfants jouer, attribuer une intériorité à un sapin de Noël, un bout de pain, discuter avec des coussins, on se dit il y a peut-être aussi une forme de jeu. Alors sans doute que vu les intérêts financiers en jeu derrière l'IA, c'est peut-être pas exactement ce qui est visé, mais en tout cas il y a peut-être une trace de ça aussi, c'est-à-dire on n'est pas si bête que ce que souvent j'ai l'impression on nous dit qu'on est.
Ce qu'on doit étudier en revanche, c'est qu'à la différence de l'enfant qui va créer une personnalité à son nounours ou au sapin ou à tout type d'objet et d'amis imaginaires, c'est que là la machine va être dans une interaction ultra personnalisée et identifier aussi des points de vulnérabilité, collecter des données qui sont de plus en plus intimes, de plus en plus sensibles et s'adapter de par son paramétrage et ses différentes fonctionnalités dans les réponses qu'elle apporte. Donc là, le jeu, on peut en être finalement le dupe et produire ici encore plus cet effet Elisa. Donc en tout cas, ce sont des considérations aujourd'hui que tous nous efforçons de prendre en compte, y compris demain pour poser probablement certaines limites pour des personnes dont la vulnérabilité sera exacerbée par ces effets, comme elle l'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on se trouve confronté face à une grande masse d'informations, possiblement lorsque celle-ci est toxique.
Mais le fait que quand on se pose une question, le premier réflexe est d'aller regarder la réponse possible sur Google ou ChatGPT, il y a cette phrase de Bernanos qui a écrit un livre, une conférence, La France contre les robots, en 1947. Il dit cette chose que je trouve assez vraie. Le problème ne vient pas, dit-il, de la multiplication des machines, mais du nombre croissant d'humains qui sont formés depuis l'enfance à ne rien attendre d'autre que ce que peuvent donner les machines. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah effectivement, je trouve que c'est quand même assez hypocrite, par exemple, la manière dont on fustige beaucoup les écrans. Enfin, par exemple, dans la société des hommes et des femmes politiques qui vont parler des écrans, alors que par ailleurs, ça a une puissance disciplinaire et d'abaissement des possibles qui est très pratique pour avoir une société qui stagne politiquement et qui se soulève pas, qui est assez disciplinée, hypnotisée par des contenus numériques, etc. Et donc, on va à la fois dire il faut pas trop passer de temps sur les écrans, mais on met des iPads dans les écoles, on doit faire les cours sur PowerPoint et on doit éduquer les jeunes au numérique. Alors certes, je trouve que c'est intéressant de le faire, mais je pense qu'il y a un double discours qui est assez pratique de dire à la fois les écrans déconcentrent, mais en même temps, un jeune, quand il est chez lui en train de parler avec ChatGPT, il est moins dangereux que s'il est dehors en train de traîner, quoi.
Donc c'est on ne dit pas que les écrans déconcentrent, en tout cas on ne le dit pas toujours. On dit au contraire qu'ils captent des formes de concentration qui peuvent devenir pathogènes.
Exactement, mais je pense que j'ai pas lu la conférence, mais je trouve que il y a un renouvellement aussi des attentes. On doit pouvoir attendre de la société autre chose que simplement soit la massification du loisir par les écrans, soit l'optimisation des capacités cognitives et la lecture, quoi. On peut avoir aussi autre chose.
C'est pour ça que ça appelle, selon moi, un débat de société, de savoir vers quelle société on veut aller et collectivement, finalement, reprendre le contrôle. Alors, peut-être pas uniquement notre attention, mais également des directions vers lesquelles on veut se construire collectivement.
Et typiquement, sur l'école, il y a depuis des années des collectifs qui travaillent sur l'école dehors, sur des manières différentes d'enseigner, qui sont tout à fait compatibles avec des usages du numérique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des téléphones aux jeunes, mais plus que les sociétés se construisent et imaginent des institutions scolaires, notamment, et de formation, qui offrent aussi un rapport plus charnel, plus matériel à la réalité, qui donne aussi un peu plus à voir aux élèves que simplement de rester assis, écouter un prof. C'est quelque chose qui... Mais il n'y a pas que les écrans, hein. Depuis, on a vu les 400 coups de Truffaut.
Mesdames, je sens naître entre vous des bribes de convergence. Malheureusement, le temps imparti s'est écoulé. Je vous remercie d'être venu discuter à la conversation scientifique. Je recommande la lecture de vos ouvrages. Donc, Hors de soi, déjouer la tyrannie de l'attention par Apolline Guillot, ouvrage qui sera en librairie le 23 janvier 2026. Et votre ouvrage écrit avec trois autres chercheurs, Célia Zolinski, qui s'intitule Pour une nouvelle culture de l'attention, qui est paru aux éditions Odile Jacob. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation, à la mise en onde, Souad Boukorsa.